Aujourd'hui avec le père Henri Lefer.
Cette semaine, je voudrais vous entretenir des différents privilèges de la Vierge Marie. Nous commençons par celui qui est à la source de tous les autres, c'est la maternité divine de Notre-Dame. En 1931, à l'occasion du 15e centenaire du Concile d'Éphèse, le pape Pie XI instaura la fête de la maternité divine de Marie le 11 octobre. Après le Concile Vatican II, la fête fut reportée au 1er janvier et s'intitule depuis Solennité de Marie, Mère de Dieu. Cette fête célèbre la proclamation de Marie comme étant la Théotokos. C'est l'Église primitive qui a décidé de résumer la maternité de Marie en cet unique mot grec. En l'an 431, un âpre débat éclate au sein de l'Église catholique à propos de l'une des dénominations de la Vierge Marie. Le conflit requiert même la tenue d'un concile œcuménique exceptionnel dans la ville d'Éphèse afin de trancher la question. Deux points de vue s'opposent alors, l'un soutenu par le patriarche Nestorius de Constantinople, l'autre par Saint Cyril d'Alexandrie. Le premier, Nestorius, estime que Marie devait être appelée Christotokos, mère du Christ, littéralement celle qui porta le Christ ou celle qui donna naissance au Christ. Nestorius employait là un terme qui laissait entendre que pour lui, le Christ était constitué de deux personnes distinctes, l'une divine et l'autre humaine. Dès lors, la Vierge Marie, en donnant chair à Jésus, pouvait être appelée mère du Christ, mais non pas mère de Dieu. Face à lui, Saint Cyril et de nombreux évêques considèrent, eux, que le terme adéquat pour désigner la Vierge devait être Théotokos, la mère de Dieu. Cette terminologie permet d'attester que Jésus est bien une personne de deux natures qui sont unies. Une écrasante majorité se prononce en faveur de l'appellation Théotokos, et Nestorius est déchu de son statut de patriarche de Constantinople. Le titre de mère de Dieu ne signifie pas que Marie aurait existé avant Dieu, ou l'aurait créée, mais qu'elle a donné naissance à Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Voici comment ce mystère est formulé dans le catéchisme de l'Église catholique. Celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit, et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Dans une question de la Somme théologique, saint Thomas, grand docteur de l'Église, se demande si Dieu pouvait faire les choses meilleures qu'il ne les a fait. Et il répond oui, car la puissance de Dieu est infinie. Mais saint Thomas fait une exception pour trois éléments de la création. L'humanité de Jésus, la vision béatifique des saints au ciel et la bienheureuse Vierge Marie. Le pape Léon XIII en donne le même enseignement quand il dit « La dignité de la Mère de Dieu est si haute qu'il ne peut rien y avoir de plus grand. » Le pape Pie XII ajoute « Il n'est pas douteux que Marie la très sainte dépasse par sa dignité toutes les réalités créées et que de même elle a une primauté au-dessus de tous après son fils. » La maternité divine est immédiatement ordonnée à l'incarnation d'où procèdent toutes les grâces. En s'incarnant, Dieu n'assume pas que la nature humaine, il assume aussi la maternité humaine. Il lui donne d'être surnaturelle et divine par la grâce qu'il infuse dans les sentiments de Marie pour les élever jusqu'à lui. L'effet propre de cette grâce en Marie est de lui permettre de s'unir par toute sa personne au fruit de ses entrailles et qui la rend mère et associée à la mission de son Fils. Marie est la mère de Dieu, car elle est la mère de Jésus-Christ, qui unit en sa personne les deux natures de Dieu et de l'homme. Ainsi, Élisabeth, sa cousine, quand Marie lui rendit visite, après avoir conçu le Fils de Dieu, s'exclame « Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Quand Marie de Nazareth a conçu dans ses entrailles le Verbe de Dieu, la conception fut l'effet de sa plénitude de grâce et de l'action du Saint-Esprit qui est intervenu dans son âme en tout premier, ainsi faisant de sa chair un tabernacle et un sanctuaire. La dignité de la Mère de Dieu et sa grande sainteté. Il s'agit de l'incomparable grâce qui l'élève au-dessus de tous les anges. Nous comprenons mieux ce que Marie est pour l'Église. De la même manière que Marie fut nécessaire à Dieu pour l'incarnation du Verbe, elle lui fut nécessaire pour sanctifier les âmes et accroître leur ressemblance avec le Christ, et elle nous est grandement nécessaire dans notre infirmité. À l'image de la Vierge Marie, les chrétiens peuvent mettre Dieu au monde en accomplissant sa volonté. Ce privilège est attesté par les paroles de Jésus lui-même. La tradition a toujours compris la Vierge Marie comme la figure de l'Église. Autrement dit, tout ce qui est dit de la Mère du Christ peut être affirmé également de l'Église. Jean Tauleur, un mystique du XVIe siècle, disait qu'à Noël étaient célébrées trois naissances. La naissance dans l'éternité du Fils, auquel le Père donne la divinité, la naissance de Jésus à Bethléem, de la Vierge Marie, enfin la naissance de Dieu en nos âmes. Il s'agit donc de donner naissance à Dieu en nous, de même que Marie le fit charnellement dans la ville de David. Mais de quelle façon? Pour éclaircir ce mystère, le plus simple est de reprendre les paroles que Jésus adressa à ses disciples à un moment précis de son ministère public, tandis que sa famille charnelle désirait le voir. « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » répondit-il à ceux qui l'avertissaient que les siens le cherchaient. C'est dans l'évangile de saint Marc au chapitre 3. Donc en accomplissant la volonté du Père, nous devenons la mère de Jésus. Essayons de pénétrer la raison profonde de la réponse déconcertante du Christ. D'abord, faire la volonté de Dieu fut la nourriture de Jésus toute sa vie. Il ne vivait que pour elle. Aimant le Père passionnément, son existence n'avait d'autre boussole que l'accomplissement de ses desseins. Telle était la conséquence de son statut de fils de Dieu. Chaque geste qu'il posait était comme un engendrement prolongé par le Père. Aussi le fidèle, qui met ses pas dans les siens, en accomplissant la volonté divine, devient-il pareillement un autre Christ. L'agir du chrétien, s'il est conforme à la charité de Jésus, s'apparente de la sorte à un enfantement du Christ en lui. Il met au monde le Fils de Dieu, en faisant progresser le royaume, ce royaume que le Christ est lui-même, selon Origène. Tout chrétien conséquent qui met en pratique ce qu'il a appris de la bouche de Jésus, enfante donc en lui la volonté du Père, cette volonté incarnée en Jésus. Il consolide de la sorte son être de fils de Dieu. À l'instar de Marie, il donne Jésus au monde en étendant le règne du Christ dans les cœurs. En servant ses frères, il contribue à ce que l'amour relie les hommes entre eux et qu'ainsi la paternité divine gagne du terrain sur la rivalité mimétique, la compétition, la jalousie et la défiance entre les enfants de Dieu. Certes, à Bethléem, Marie a déjà donné naissance à Dieu en enfantant Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Cependant, la Vierge n'a pas achevé son rôle d'engendrement le jour de Noël. Elle continue son office de maternité divine en enfantant Jésus dans les disciples de son Fils qui sont ses enfants. Avec l'aide de la Vierge et dans le prolongement de leur baptême, les chrétiens, devenus enfants de Dieu, sont appelés eux aussi à donner chair à Jésus en aimant leurs frères comme Jésus les aima et continue de les aimer au ciel. De même que Jésus fut conçu de l'Esprit, de même le baptisé, qui est né une seconde fois d'eau et d'esprit, devient capable à son tour d'incarner en sa personne la beauté et la bonté de l'Évangile.